Merci au groupe Louange pour votre profondeur, votre sensibilité. Avant de passer à la prédication, j'aimerais passer la parole à Rosemarie Raymond.
Je voudrais vous partager une image que j'ai reçue lorsque ce couple a parlé de nos générations. Nous avons parlé des différentes générations. Et j'ai reçu ce verset de la lettre d'Ésaïe, lorsque Ésaïe dit qu'il vit le Seigneur sur un trône élevé. Et j'ai vu ce Seigneur sur son trône élevé, et son trône était élevé sur des marches d'escalier, beaucoup de marches d'escalier, et il dominait. Et au pied de ces marches d'escalier, j'ai vu la mer qui arrivait, le ressac des vagues. Et ces vagues arrivaient successivement, et ce sont nos générations. Les premiers chrétiens, la première vague qui s'écrase contre les marches, puis toutes les générations de chrétiens qui viennent s'écraser au-dessus de la première vague. Mais l'eau de la première vague se mélange de nouveau à toutes les autres vagues qui viennent. C'est un tout. Il n'y a pas de différence entre la première vague et toutes les autres qui viennent. C'est le tout. Et c'est l'éternité des chrétiens qui adorent le Seigneur et qui sont au pied du trône du Seigneur. Amen.
Merci beaucoup. Priscille, comme je l'ai dit tout à l'heure, va nous apporter le message et je vais prier pour elle. Oui, Seigneur, tu vois déjà cette unité que nous avons vécue. Tu vois ce que nous avons pu déjà partager ensemble dans cette première partie de culte. Nous voulons maintenant nous mettre à ton écoute. Ouvrir nos cœurs à ce que tu veux, au travers de Priscille, nous partager. Je te demande de la bénir, de la garder pendant ce message, et chaque jour du reste, mais pendant qu'elle nous partage la parole qui vient de toi. Amen.
Merci. C'est pas facile de prendre la parole quand on vit un tel moment de louange après une super présentation du service PAC. Je voulais dire que je suis tellement contente que Christopher et puis Anne-Gabrielle aient pu venir, et puis que ces deux personnes qui m'ont beaucoup encouragée, ça fait de nombreuses années. Anne-Gabrielle, c'est ma sœur, vous voyez peut-être l'air de ressemblance, ma grande sœur. Et puis Anne-Gabrielle, pour moi, c'est un modèle dans la foi, parce qu'elle a toujours eu cette confiance en Dieu. Depuis toute petite, je me rappelle qu'elle avait cette confiance. Et elle s'est vraiment laissée porter par cette confiance. Alors que pour moi, c'était plutôt un combat de faire confiance à Dieu. Puis Christopher, je le connais depuis qu'il est petit comme ça. Et j'allais l'inviter en fait à Antizone. C'est moi qui sonnais à sa porte chaque fois qu'il y avait Antizone. Puis je disais « Salut Christopher, ça va ?» T'as eu un test d'allemand, ça s'est bien passé. Tu fais quoi ce week-end? Tu veux venir à Antizone? Et puis Christopher, il a grandi. C'est maintenant un homme, marié depuis quelques mois aussi. Et ça a été magnifique de voir son parcours de près, toutes ces années où il était à Antizone comme adolescent, puis ensuite comme responsable d'Antizone. Et puis après, on l'a suivi un petit peu plus de loin. Il est venu nous faire un petit coucou à Vancouver, c'était chouette. Et puis c'est beau de le retrouver et puis de voir un homme qui aime profondément Dieu et qui, en dehors de ses heures de travail, coordonne tout le service PAC, et je vous assure que c'est du boulot. Le week-end passé, on a eu un week-end de responsables. Et puis dans ce week-end, notre but, c'était de nous mettre à l'écoute de Dieu pour découvrir ensemble une vision pour notre Église, pour 2017 et les années qui vont suivre. Et puis, on est revenu et on vous a partagé cette vision telle qu'on l'avait à ce stade, à l'écoute de Dieu pour discerner sa volonté dans l'unité. Nous voulons vivre et rayonner l'amour de Jésus-Christ autour de nous et au-delà. Et aujourd'hui, on pourrait dire que mon prêche, il s'adresse au cœur de cette vision. Vivre l'amour de Jésus-Christ pour pouvoir le rayonner. Alors, je vais surtout vous parler de l'aspect vivre et un petit peu de rayonner. Nous avons vu au mois de janvier que nous appartenons à un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous aime profondément et que c'est ça qui définit notre identité. Nous sommes aimés par un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui nous aime. Nous avons aussi vu que nous sommes remplis d'espoir parce que nous avons reçu son salut. Et ce salut, c'est comme la vie du futur dans laquelle nous sommes enracinés dès à présent. Ce salut, c'est comme cette vie du futur dont nous jouissons déjà en partie maintenant. Et cette vie du futur, c'est la plus belle qu'il soit. C'est une vie de réconciliation profonde de toute la création avec son Créateur. Et puis, comme on l'a aussi vu, c'est à cet amour, cet espoir que nous vivons et qui nous remplit, qui nous pousse vers les autres comme agents de l'espoir et de l'amour que nous avons reçu. Alors, on a tout vu. Il n'y a plus besoin de rajouter quelque chose. Ou peut-être juste parler du concrètement. Mais concrètement, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on peut vivre cet amour de Dieu en nous? Et c'est là qu'intervient notre texte d'aujourd'hui. Je vous lis dans 1 Pierre, le chapitre 1, et au verset 13. C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil. Je vais vous le mettre haut. C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Ici, c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme. Conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Non. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Voilà le programme. Le verset 13 nous dit « Tenez votre intelligence en éveil ». Et littéralement, dans le texte, c'est, en fait, ce qui est dit, c'est « Ayons sains les reins de votre intelligence ». Une expression un peu difficile à comprendre pour nous. Mais il faut vous imaginer qu'à l'époque, les hommes portaient de longues robes et que quand ils voulaient courir, eh bien, pour ne pas se prendre les pieds dans leur robe, la première chose qu'ils devaient faire, c'était de remonter leur robe et la mettre dans leur ceinture. Et quand Pierre applique cette expression à l'esprit, c'est comme si Il parlait de préparation mentale. Voilà pourquoi la photo est un peu bizarre. Alors, pour un sportif, la préparation mentale, c'est le fait d'utiliser dans son esprit des images qui sont détaillées, spécifiques, réalistes, de la façon dont il va se produire en compétition. Il doit avoir une représentation mentale très précise de ses mouvements lors de sa performance. Et ça a beaucoup d'importance pour sa performance. Qu'est-ce que c'est la présentation mentale comme manière à nous de vivre l'amour de Jésus-Christ, de nous approprier sa vie, sa présence en nous? Alors j'aimerais commencer par ce que ça n'est pas. Alors, le salut n'est pas, et là je vous provoque un peu, mais le salut, ce n'est pas un champignon hallucinogène. Et ce n'est pas quelque chose qu'on avale. Et puis quand on l'avale, ben, y a toute notre perception de la vie qui change. Et puis à cause de cette drogue, nous sommes remplis d'espoir. Et puis toute notre vie devient colorée en rose, puis nous vivons et nous rayonnons l'amour de Jésus-Christ. Le salut, c'est quelque chose, Pierre nous rappelle aujourd'hui, c'est quelque chose que nous nous approprions dans notre manière d'être et de penser. Et c'est sûr, Dieu joue une part énorme dans ce processus. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la part que nous, nous avons à faire. Dans le texte, j'ai distingué quatre étapes. Quatre étapes à cette préparation mentale, comme je l'appelle aujourd'hui. Quatre étapes, et chacune d'elles, elle est indispensable à cette préparation mentale. On ne peut pas faire l'impasse sur une parce qu'elle ne nous arrange pas. Et vous verrez peut-être qu'il y en a plusieurs qui ne nous arrangent pas. La première étape, elle nous dit « soyez sobre ». Ou encore, plus loin dans le texte, « ne vous conformez pas au désir que vous aviez quand vous étiez ignorant ». La première partie de notre préparation mentale, elle consiste à faire de l'ordre. Elle consiste à nous dépouiller de tout ce qui, dans nos pensées, nous empêcherait de nous approprier la vie de Dieu, sa présence dans nos vies. Et si vous êtes comme moi, ben, tous les jours, j'ai du travail à faire de ce côté-là. Pour chaque personne, ça peut vouloir dire des choses différentes. Pour certains, ça peut être des conflits non réglés, une amertume qui ronge, quelque chose de malsain d'un genre ou d'un autre qui a pris le contrôle sur la vie et dont on ne sait plus quoi faire pour s'en débarrasser. Pour d'autres, ça peut être une angoisse sourde, une angoisse qui dirige la personne. Pour d'autres, ça peut être une importance démesurée sur quelque chose qui est adoré à la place de Dieu. Il y a tellement de choses qu'on peut adorer à la place de notre Créateur. Pour d'autres, ça peut être des dépendances. Il y a les dépendances aux substances, l'alcool, la drogue, qui sont une réalité dans notre société. Mais il y a aussi les dépendances à la pornographie qui a explosé depuis l'avènement d'Internet, ou même la dépendance à notre téléphone portable. Il y a tellement de choses dans notre société qui peuvent venir prendre la place de Dieu dans nos vies. Si nous voulons nous approprier la vie que Dieu nous donne, nous avons un travail difficile à faire. Un travail où nous avons besoin de nos frères et sœurs et du Saint-Esprit. Ce travail, c'est de nous attaquer à ce qui nous empêche d'adorer Dieu complètement, ce qui vient prendre la place de Dieu dans notre vie, ce qui empêche cette sobriété qui lui laisse la place à lui. Alors j'en viens à la deuxième étape. Là, on a fait de l'ordre. Ok, super, mais si on fait de l'ordre et qu'on ne fait rien d'autre, ça ne suffit pas. Il faut maintenant qu'on se nourrisse à la bonne source, se nourrir de l'espérance qui s'attache à la vie reçu en Dieu. L'espoir avec un grand E. En français, on parle d'espérance. Le texte nous dit, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Est-ce que vous avez déjà imaginé que la foi chrétienne, c'était un appel à vous nourrir de l'espoir jour après jour? Vous saviez que vous étiez sauvés, mais est-ce que ce salut, c'était une vie pleine d'espoir? Vous l'imaginez comme une vie pleine d'espoir dont vous vous nourrissez jour après jour? C'est la vie du futur dont vous jouissez déjà en partie maintenant, et c'est cette vie dont vous jouirez pleinement lorsque Christ reviendra. Comment vous nourrir de cet espoir? Comment nous nourrir de cet espoir? Un petit peu plus loin dans le texte, on a une réponse à ça. Le verset 21 nous dit, « Votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Nous nous nourrissons de l'espoir, de l'espérance qui se trouve en Dieu, en nous nourrissant de Dieu lui-même. À quel point votre vie se nourrit-elle de Dieu? Je me souviens l'année passée, on était en transition entre le Canada et la Suisse. Puis Nicolas travaillait comme un fou pour rendre ses derniers papiers. Il a rendu son dernier papier, je pense que c'était 3 jours avant qu'on prenne l'avion à 2h du matin. Et puis moi, j'étais seule avec les enfants et puis je devais jongler avec tout le reste, les valises, vider l'appartement, prendre des contacts en Suisse avec les écoles et m'occuper des enfants accessoirement. Et puis j'étais assez accablée par la tâche. Je me souviens que j'étais pas du tout remplie de la présence de Dieu dans ma vie. Puis je me souviens aussi qu'un soir, j'en avais un peu marre. Et puis je mettais les enfants au lit et j'ai prié pour eux, un peu pour la forme. Et puis quand je priais, j'ai dit des mots très très simples à Dieu pour dire qui il est. Ben, mes enfants, ils sont petits, il faut utiliser des mots simples. J'ai utilisé ces mots simples pour dire merci à Dieu, à qui il est pour nous. Et puis, alors que je prononçais ces mots, il y a quelque chose qui a shifté. Tout d'un coup, je me suis vraiment retrouvée dans la présence de Dieu. Tout d'un coup, je me nourrissais de la présence de mon Père. Tout d'un coup, j'étais nourrie par l'amour de Jésus-Christ pour moi qui s'est donné. Et puis, j'étais dans la présence de l'Esprit-Saint. Il était en moi. Et j'étais en paix dans notre situation qui était complètement chaotique. Mais concrètement, comment est-ce qu'on s'en nourrit de la vie que Dieu nous donne? Comment est-ce qu'on se nourrit de Dieu lui-même? On le fait en étant intentionnel. Intentionnel dans la manière dont on se met en relation avec lui. Parce que la vie qu'il nous offre, c'est une relation avec lui. Et plus encore qu'une relation, c'est une union avec lui. C'est sa présence dans nos vies. Et quand on veut grandir dans une relation, on doit être intentionnel pour que ça se passe. Est-ce que c'est légaliste d'être intentionnel? Alors je pense que c'est à peu près aussi légaliste de dire que c'est légaliste pour un couple de se retrouver pour des moments spéciaux entre eux ou pour faire l'amour. Mais quand il s'agit de notre relation avec Dieu, on a souvent tendance à confondre le légalisme et l'intentionnalité. Et au fait, assez souvent, on se retrouve dans cette situation, on veut que la foi nous tombe naturellement dessus, la présence de Dieu nous tombe naturellement dessus, un peu comme le champignon hallucinogène dont je vous parlais tout à l'heure. Mais l'intentionnalité, ce n'est pas du légalisme. L'intentionnalité, c'est un désir de nous mettre en relation avec Dieu, de nous nourrir de lui, de nous nourrir de son amour. et de nous donner les moyens concrets qui vont nous aider à y parvenir. Alors, j'ai trouvé un texte de Rick Warren et il me semble bien résumer cette intentionnalité de vouloir être en communion, en relation avec Dieu. Je vous le lis. Ce n'est pas en allant à l'église une fois par semaine, ni même en respectant chaque jour un moment de culte personnel, que vous entrerez dans une communion avec Dieu. Pour construire une relation d'amitié avec lui, vous devez le faire participer à tout ce que vous vivez. Bien entendu, il est important de prendre l'habitude d'un temps de méditation quotidien, mais Dieu désire davantage qu'un rendez-vous dans votre emploi du temps. Il veut être inclus dans chaque activité, chaque conversation, chaque problème et même chaque pensée. Et c'est valable aussi pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pas seulement pour le dimanche. On a vu la première étape, soyez sobre. La deuxième étape de notre préparation mentale, mettez toute votre espérance en Dieu. La troisième étape, soyez saints dans toute votre conduite. Alors, ça peut nous paraître une demande absolument inconcevable, impossible. Ça peut nous paraître de nouveau extrêmement légaliste, une incitation même au pharisaïsme, à l'hypocrisie. C'est pas possible d'être saint. Et pourtant, dans la Bible, être saint, c'est un appel à refléter le caractère de Dieu dans tout ce que nous désirons et dans tout ce que nous faisons ou pensons. Et ce n'est pas juste Pierre qui a eu l'idée saugrenue de demander à ses lecteurs d'être saints. C'est une vocation biblique qu'on retrouve dans toute la Bible, une vocation que Dieu adresse à son peuple et une vocation qu'on ne peut pas juste balayer d'un revers de la main parce que c'est impossible. On a chanté, on l'a chanté aujourd'hui, Dieu, tu es saint. Et dans l'Ancien Testament, la première caractéristique de Dieu, c'est qu'il est saint. Et la première caractéristique de l'homme, c'est qu'il est pécheur après la chute, c'est-à-dire pas saint. Et nous voyons que Dieu y prend l'initiative de nous réconcilier avec lui-même et de venir nous sanctifier. Et comment il le fait? Il nous sanctifie en se donnant lui-même pour nous. Nous avons été rendus saints par le fait que Christ a offert sa vie pour nous. Mais le fait que nous avons été rendus saints vient avec un appel. Nous devons devenir ce que nous sommes. Nous avons été rendus saints et nous devons devenir saints. J'aimerais vous l'illustrer en prenant un exemple. Si vous vous mariez, vous acquérez un nouveau statut, le statut d'homme ou de femme mariée. Mais cela ne signifie pas nécessairement que vous vous comportez comme l'homme ou la femme mariée que vous êtes. Vos actions et vos pensées, elles sont appelées à s'aligner à ce nouveau statut. Un statut qui parle du fait que vous n'êtes plus tout seul dans la vie, mais que vous êtes deux. Vous devez devenir la personne mariée que vous êtes. Et cela paraît évident. Mais dans la vie quotidienne, je pense que toutes les personnes mariées de cette salle pourront le dire, ça peut être un défi. Et comme une personne mariée, elle a l'appel de se comporter comme une personne mariée, nous avons l'appel de nous comporter en fonction de ce nouveau statut de personne rendue sainte par Dieu, de personne sainte devant Dieu. Alors, comment est-ce qu'on devient saint? Comment devient-on des personnes qui reflètent le caractère de Dieu dans ce que nous sommes et ce que nous faisons. Pour ceux qui avaient entendu les messages de Ruth, comment venons-nous des personnes qui reflètent le chesed de Dieu, son amour, sans limite? Alors c'est sûr, sur cette terre, on ne sera jamais complètement des personnes alignées à notre nouveau statut. Devenir saint, c'est un cheminement dans lequel on peut progresser, par contre. Et devenir saint, c'est la conséquence logique des deux premières étapes dont je vous ai parlé. Je rejette ce qui prend la place de Dieu dans ma vie. Je me nourris intentionnellement de sa présence, en me nourrissant de lui, de qui il est, de ce qu'il m'offre. Et comme je me laisse remplir par lui, par sa présence, par sa bonté, par sa sainteté, il y a quelque chose de contagieux dans cette présence qui m'habite. J'ai envie de pouvoir refléter qui il est autour de moi. Être saint, appelé à être saint, ce n'est pas une série de règles à suivre. C'est une relation qui me remplit de plus en plus. Une relation avec mon Dieu. Une relation qui m'amène à changer la nature de mes désirs, de désirs portés sur moi, à des désirs, un désir de devenir comme lui pour pouvoir le refléter. Alors, qu'est-ce que c'est la suite? Oh, ça allait un peu vite. Première étape, soyez sobre. Deuxième étape, mettez toute votre espérance en Dieu. Troisième étape, soyez saint. Quatrième étape maintenant, craignez Dieu. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil. Et de nouveau, ouch, ça fait un tout petit peu mal à nos oreilles contemporaines. On n'aime pas beaucoup cette histoire de crainte. Il y a quelques mois, j'ai fait une expérience intéressante avec une amie qui s'intéresse à la foi chrétienne. Suite à une prière, elle a été instantanément guérie d'une déchirure qu'elle avait au ligament. Et elle a pu marcher normalement. Vous savez quelle a été sa réaction? Elle a eu peur. Moi, je l'ai vue de mes propres yeux. Et quand nous voyons des miracles dans les évangiles, nous voyons aussi souvent que les personnes qui sont guéries, elles sont saisies de crainte. Tout d'un coup, elles réalisent qui est Dieu. Et ça leur fait peur. La crainte, c'est un immense respect quand nous réalisons vraiment qui est Dieu, dans toute sa puissance. Et puis la crainte, nous dit aussi le texte, c'est un immense respect devant Dieu quand nous réalisons vraiment qui il est dans tout son amour. Le texte nous dit qu'il n'a pas hésité une seconde de devenir humain, de prendre notre vie sur lui pour nous offrir la sienne. J'aimerais ajouter quelque chose. Quand nous nous approchons de Dieu, nous pouvons nous approcher de lui avec amour et crainte en même temps. Ce n'est pas des sentiments contradictoires. Parce que la crainte, ce n'est pas l'anxiété. Mais c'est un immense respect face à qui est Dieu, face à ce qu'il a fait pour nous. Craindre Dieu, c'est l'aimer de manière humble. Comme un petit enfant qui aime ses parents et qui leur fait confiance, qu'ils prennent soin de lui, qu'ils s'occupent de lui. C'est ça l'aimer, avec crainte. La crainte, c'est un mot de nouveau qui est un mot clé dans l'Ancien Testament, la crainte de Dieu. Et c'est aussi un mot qui revient souvent dans le Nouveau Testament. Et à nouveau, ce n'est pas un mot qu'on peut juste rejeter parce qu'il ne nous arrange pas. Cette crainte, elle nous amène à nous tenir de manière juste devant Dieu. Dieu, ce n'est pas un Dieu que nous nous sommes fabriqués pour nous rassurer ou pour ne jamais nous offenser dans ce que nous pensons. Ce n'est pas nous qui sommes les créateurs et lui la créature. La crainte que nous avons face à qui il est reconnaît que nous sommes ses créatures et lui notre créateur. Et malgré toutes les envies que nous avons de lui dire ce qu'il doit penser et ce qu'il doit faire, nous reconnaissons que c'est à nous d'apprendre de lui ce que nous devons penser, ce que nous devons faire. C'est un point qui est particulièrement important dans l'époque où nous vivons. Et voilà pourquoi cette si belle image. Parce que nous sommes chacun si tentés de nous construire un Dieu qui vient et qui est sympa et qui nous caresse dans le sens que nous en désire. Un Dieu tellement sympa qu'il nous dit que c'est OK de ne pas vouloir faire de l'ordre dans notre vie, alors l'étape 1, on peut la balancer. Qui nous dit que c'est OK de ne pas vouloir chercher à nous mettre intentionnellement en relation avec lui chaque jour de nos vies, alors on balance l'étape 2. Puis un Dieu tellement sympa qui nous dit que c'est OK de ne pas vouloir chercher à être saint, ce serait d'ailleurs un peu hypocrite. Donc on peut balancer l'étape 4. C'est un Dieu très sympa, mais c'est un Dieu complètement inoffensif. Ce n'est pas le Dieu que nous adorons. Le Dieu véritable, celui qui a inauguré dans toute la puissance de son amour infini un royaume de paix, de joie, de réconciliation profonde et d'une portée cosmique. Dieu est Seigneur sur tout l'univers et Dieu veut être notre Seigneur. Craindre Dieu, c'est renoncer à créer un Dieu à la mesure de qui nous sommes. Craindre Dieu, c'est plutôt désirer grandir à la mesure de qui il est lui, pour pouvoir le rayonner dans toute la puissance de son amour infini. J'en ai fini avec les 4 étapes de la préparation mentale. Soyez sobre, mettez toute votre espérance en Dieu, soyez saint, craignez Dieu. Et toutes ces étapes ensemble, c'est ça qui vont nous permettre de nous approprier cet amour de Jésus-Christ dans nos vies, de vivre cet amour de Jésus-Christ dans nos vies, de vivre sa présence dans nos vies. Alors, comme le disait notre vision, on ne veut pas juste vivre l'amour de Jésus-Christ, on veut le rayonner. Mais pour qui est-ce qu'on veut le rayonner? Et c'est avec ça que je terminerai. Alors maintenant, vous pouvez tourner la tête à gauche, à droite, faire un petit signe aux gens que vous connaissez dans la salle, une petite grimace, un sourire crispé. Admirez la peinture, malheureusement, elle est un petit peu trop... on ne la voit pas aussi bien que ça. Et puis surtout, écoutez le texte. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Alors, c'est vrai, on a envie de rayonner l'amour de Jésus-Christ au-delà de nos murs. Et le service Pâques, c'est un magnifique exemple de ça, rayonner cet amour au-delà de nos murs. Mais rayonner cet amour, ça commence par nos frères et sœurs qui sont ici présents dans cette salle. Les premières personnes pour qui nous sommes appelés à devenir l'espoir de Dieu, rayonner l'amour de Jésus-Christ, elles sont là, dans cette salle. Toute cette préparation mentale que vous avez faite, c'était pour cela, pour que vous puissiez tout d'abord, vous aimez entre frères et sœurs en Christ. Tout cet énorme de préparation mentale, pour ça. Mais tout cet énorme de préparation mentale, parce que s'il n'est pas fait, si vos pensées ne sont pas nourries de cette vie de Christ lui-même, que vous n'avez pas ce désir profond de lui ressembler et de lui demander de pouvoir lui ressembler toujours plus, eh bien, vous pourrez vous aimer entre vous, mais y aura une limite à cet amour. Et le texte nous dit que nous ne sommes pas juste appelés à nous respecter, ou encore juste appelés à nous côtoyer dans une indifférence respectueuse. On est appelés à nous aimer d'un amour ardent. C'est ça le mot utilisé dans le texte. Cet amour, il est ardent parce que porteur de la vie de Christ. Alors, il arrive régulièrement que, quand je dis que je suis pasteur, c'est rigolo de voir cette réaction, mais surtout des gens qui sont depuis longtemps dans les églises, ils me disent « Oh là là, il faut avoir les épaules solides pour être pasteur. » Et c'est une manière de voir les choses, mais en fait, je ne crois pas que ce soit la juste manière de voir les choses. En fait, je crois que ce que j'ai besoin en tant que pasteur, et ce que vous avez besoin dans tous vos ministères, dans toute votre vie en général, c'est de cette préparation mentale dont je vous ai parlé, cette préparation mentale qui élargit notre cœur à la mesure de qui est Dieu. C'est ça dont nous avons besoin fondamentalement. C'est cette préparation mentale qui nous permet de nous approprier une autre réalité que la réalité que celle que nos yeux voient le lundi matin quand on se rend au travail. La vraie réalité, celle où Dieu est à l'œuvre et agit. Celle où il nous invite à le rejoindre pour vivre son amour, premièrement, et deuxièmement, pour pouvoir le rayonner. S'approprier la vie de Dieu, c'est pas avaler un champignon hallucinogène. S'approprier la vie de Dieu, c'est être intentionnel dans notre manière de vouloir nous laisser habiter par lui. Alors j'aimerais vous inviter maintenant à un temps de prière où vous pouvez revenir sur chacune de ces étapes et vous laisser interroger par Dieu par rapport à chacune de ces étapes. Soyez sobre. Est-ce que dans votre vie, vous avez encore de la place à faire pour Dieu, que vous devriez faire à Dieu ? Mettez toute votre espérance en Dieu. Est-ce que dans votre vie, vous êtes intentionnel dans votre manière de vous nourrir de Dieu? Soyez saint. Est-ce que dans votre vie, vous avez ce désir de refléter Dieu? Et finalement, craignez Dieu. Est-ce que vous êtes tenté de vous créer un Dieu à votre mesure? Bien, est-ce que vous avez envie de grandir à la mesure de qui est Dieu? Il y aura donc quelques minutes de silence et ensuite il y a Nicolas qui conclura par la prière.